gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'avoir au milieu de nous Samuel Ferris et Micheline. Voilà. Nous sommes heureux de leur collaboration, coopération avec nous. Voilà. Que Dieu bénisse notre frère et bénisse chacun de nos cœurs.
Bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais ce matin lire avec vous un passage situé dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 38. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Serre à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Car ainsi parle l'Éternel, « On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur, encore une fois, pour la joie que tu nous accordes à cause de ce grand salut dont nous sommes les bénéficiaires les uns et les autres. Merci aussi pour ta parole dans laquelle nous voulons plonger nos regards, mais aussi au travers de laquelle nous voulons puiser tout ce qui est indispensable pour marcher d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Seigneur, reçois de nos cœurs qui t'aiment toute la reconnaissance pour tes nombreux bienfaits. Et à cet instant encore, nous nous attendons à toi pour que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos consciences, et que tu nous amènes sur un chemin où ta gloire va être manifestée. Nous comptons sur toi, Seigneur, et ensemble, nous te louons de tout notre cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce miracle extraordinaire qui a été accompli par la puissance de Dieu au travers, je dirais, de sa parole et uniquement au travers de sa parole. La Bible nous dit ici qu'il y avait dans le pays une grande famine. Je voudrais vous dire que souvent, Dieu a permis des épreuves et des temps de crise, des difficultés, non pas pour nous anéantir, mais pour que nous puissions retirer un bénéfice pour nos âmes et que le résultat de l'attention que nous portons à ce que Dieu nous dit puisse contribuer à un véritable miracle dans nos vies et dans nos cœurs. Alors, je voudrais placer ce texte dans son contexte. Pour commencer, j'attire votre attention sur le premier verset que nous avons lu. Il semble insignifiant, et pourtant, il y a là déjà quelque chose de très important. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Je m'arrête à considérer avec vous cette ville de Gilgal. Chacun d'entre nous ici, certainement, a entendu comment, dans cette ville, du temps de Josué, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé de particulier. La Bible nous dit que c'est à Gilgal que Dieu a roulé l'opprobre de l'Égypte et ainsi a permis que son peuple soit marqué de la circoncision. Alors, chacun d'entre nous sait très bien ici que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas la circoncision de la chair, cette marque dans la chair, ce retranchement dans la chair, mais ce qui est important, c'est la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur ne peut s'opérer que par la croix de Jésus, notre Sauveur. C'est là que la chair, une fois pour toutes, a été jugée. Et tout le peuple s'est retrouvé là avec Élisée, rassemblé à Gilgal. Quand je dis tout le peuple, en fait, ce sont les fils des prophètes qui l'entouraient et qui étaient placés dans ce lieu. Ces fils des prophètes, qui sont-ils ? Vous savez, pour avoir lu cela dans la parole de Dieu, que ces fils de prophètes avaient eu un moment de perplexité, je dirais aussi un moment de tristesse, lorsque le prophète Élie, qui a précédé Élisée, a été enlevé au ciel. Ils se sont posés toutes sortes de questions, et allant vers le prophète Élisée, ils ont fait une proposition. Ils ont dit « Permets à tes serviteurs d'aller chercher Élie parce qu'ils ne croyaient pas qu'il avait été enlevé au ciel. » Et Élisée leur a dit « Non, ne faites pas cela, c'est inutile. » Lui avait clairement la vision de ce que Dieu avait fait. Pour lui, il n'y avait absolument aucun doute. Mais les fils des prophètes avaient besoin d'être convaincus que c'était Dieu qui avait enlevé Élie. Alors, comme ils ont insisté, Élisée, en fin de compte, a cédé à leur demande. Ils sont partis, ils ont cherché partout. Cela a demandé un certain temps, jusqu'à ce qu'ils reviennent vers Élisée, cette fois convaincus que Dieu avait enlevé Élie. Et nous avons ici une image qu'il est bon de considérer avec attention. Chacun d'entre nous, nous savons que celui qui est venu pour nous apporter un si grand salut et qui a souffert à notre place, qui a connu la haine et la méchanceté de la part des pécheurs et qui finalement s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, de nos douleurs, et qui a payé un prix très élevé pour que nous, nous soyons arrachés à la condamnation éternelle, ce grand Sauveur, après avoir été crucifié, a été enseveli, il est ressuscité, il est vivant, et il a été élevé dans la gloire, assis auprès de son Père, sur le trône de grâce et de gloire. Et voici ce que maintenant nous pouvons retenir. Lorsqu'Élie est monté, un manteau a été jeté vers le bas. Ce manteau est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit symboliquement. Et Élisée s'en est revêtu pour recommencer le trajet qu'il avait fait avec son maître Élie. Et à chaque étape, il a manifesté la puissance du Saint-Esprit pour que là où le peuple avait failli, la grâce de Dieu, car Élisée, c'est une image de l'Esprit de Christ manifestant sa grâce pour relever, pour guérir, pour consoler et pour délivrer. Et Élisée, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, après avoir pris ce manteau qui était tombé de la part de son maître, il s'en est chargé et arrivant devant le Jourdain, écoutez bien ici, il a pris ce manteau, a frappé les eaux du Jourdain en prononçant cette parole, « Où est le Dieu d'Élie qui avait fait exactement la même chose ?» Les eaux du Jourdain se sont séparées et il a pu aller de l'avant. Ici, quelque chose s'est passé. Voyez-vous, au préalable, le peuple avait aussi traversé le Jourdain. Mais malheureusement, sans réussir à marcher selon la volonté de Dieu. La preuve, c'est que cette génération qui avait traversé le Jourdain, à cause de leur incrédulité, à cause aussi de leur propre défaillance, à cause de ce fait qu'au lieu de compter sur la grâce de Dieu et avoir foi en la puissance de Dieu, ils ont gardé un cœur incrédule. Et vous savez quel a été le jugement de Dieu qui a été prononcé. Cette génération-là ne rentrera pas dans le pays de la promesse, sauf deux hommes qui sont d'une part Josué et d'autre part Caleb, parce que eux n'ont absolument pas douté de la puissance de Dieu pour les conduire dans la victoire. Et l'échec du peuple, eh bien, doit maintenant être réparé. Et le seul moyen, c'est justement de suivre l'esprit de la grâce dans ce cheminement qui est tout à fait différent. Élisée est précisément, je le répète encore une fois, l'esprit de Christ à l'œuvre au milieu du peuple de Dieu. Nous sommes représentés dans ce texte par les fils des prophètes. Nous aussi, nous avons marché dans l'incrédulité pendant un certain temps. Nous aussi, nous avons été loin de Dieu. Nous aussi, nous avons douté de la véracité de la parole de Dieu jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Nous sommes passés par la repentance et la croix à opérer une œuvre dans notre cœur et dans notre vie. Seulement, même si la croix est vide, nous devons toujours nous souvenir de ce que Christ a accompli en notre faveur sur la croix du calvaire. C'est la raison pour laquelle nous trouvons ici les fils de prophètes rassemblés avec Élisée sur ce terrain qui est le terrain du jugement de soi-même, qui est le terrain de l'humiliation, qui est le terrain où s'opère une nouvelle circoncision pour notre cœur, qui est le terrain de la repentance, parce que même ayant connu le Seigneur et expérimenté sa grâce, il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin de retrouver, étant conscient de notre propre faiblesse, eh bien, l'aide du Seigneur pour nous restaurer dans une vie de plénitude et dans une vie où nous honorons et nous glorifions Dieu. Puis-je vous rappeler ce matin, mes chers frères et sœurs, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons la possibilité de nous approcher du trône de la grâce, où se trouve celui qui, ayant été tenté comme nous en toutes choses, cependant sans jamais succomber au péché, peut nous secourir dans nos faiblesses, afin que nous puissions être restaurés et voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et au travers de nos vies. C'est la raison pour laquelle la meilleure position, si nous voulons voir le Seigneur nous aider, nous secourir, c'est de nous retrouver dans l'humiliation, humblement devant le Seigneur. Comme je l'ai entendu de la part de quelques-uns ce matin qui ont dit « pardon Seigneur », parce qu'il y a des moments où nous pouvons réaliser que l'épreuve, le temps de famine, le désert que nous traversons, nous amène à crier vers lui. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit « quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre ». Et moi je crois que mon Seigneur est vivant et qu'il est capable encore de faire des choses extraordinaires. Après avoir parlé de Gilgal, permettez-moi de vous parler de la famine. J'ai remarqué que souvent, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour parler au cœur, pour parler aux consciences, mais en même temps, il a utilisé la famine comme une épreuve que Dieu met semblable à un test pour découvrir vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Cependant, je voudrais préciser, Dieu n'a pas besoin de preuves pour savoir ce que nous sommes. Parce qu'il sait tout de nous et il connaît parfaitement nos cœurs. Mais quand il nous fait passer par le temps d'épreuve, c'est pour que nous puissions découvrir, nous, ce qui se cache dans notre cœur. Pour que nous puissions découvrir, nous, ce qu'il y a dans les replis de notre cœur. Alors je vais tirer quelques exemples de la parole de Dieu. Je vais aller jusqu'à cette personne, Abraham, le père de la foi. Un homme qui a entendu l'appel de Dieu, qui répond à l'appel de Dieu, qui se trouve dans la voie que Dieu désire, que Dieu a souhaité pour lui. Il a tout laissé derrière lui et a marché en se fiant uniquement à la promesse de Dieu. Et à un moment donné, au chapitre 12 du livre de la Genèse, il est dit « il y eut une famine ». Et voilà comment Dieu a mis en relief ce qu'il y avait dans son cœur, malgré son obéissance, malgré sa fidélité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il a pris une direction qui était opposée à celle qu'il avait prise au commencement. Dans un premier temps, il était dans la bonne direction. Et puis, à cause de la famine, à cause de l'épreuve, où est-ce qu'il est allé ? La Bible me dit, il est allé en Égypte. Et certainement que chacun d'entre vous sait que dans la parole de Dieu, l'Égypte, eh bien, c'est le symbole de ce monde. Et ce n'est pas dans le monde, ni dans les pratiques de ce monde, ni dans les rudiments de ce monde, ni dans la psychologie de ce monde, ni dans les traditions religieuses de ce monde que nous pouvons trouver la solution et la nourriture dont nous avons besoin pour notre âme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Là, en Égypte, Abraham a manifesté ce qu'il y avait dans le fond même de son cœur. Et il a commencé, au moment où on a pointé le doigt sur lui, en lui demandant « Qui est cette femme qui est avec toi ?» Il a répondu « C'est ma sœur. » Un demi-mensonge ou une demi-vérité, comme vous voudrez. Un compromis en tous les cas. Et le compromis, Dieu ne peut pas l'accepter. Et il s'en est fallu de peu qu'il ne perde définitivement celle que Dieu avait placée à côté de lui. Il a fallu donc qu'il rebrousse chemin pour retrouver Bethel, là où il était au commencement, la maison de Dieu, la maison où se trouvent les promesses de Dieu, la maison où il y a du pain en abondance. Parce que même s'il y a la famine, les épreuves et les difficultés, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu n'abandonne jamais aucun de ceux qui se confient en lui. Et quand Abraham a vraiment goûté aux conséquences de ses turpitudes, alors il a fait demi-tour et il est revenu là où Dieu le souhaitait. Deuxième témoignage, tel père, tel fils. Isaac, lui aussi, a connu une période de famine. Mais là, c'est Dieu qui lui parle. Et chose étonnante, Dieu lui dit, demeure dans ce pays. Et ce pays, c'était le pays de Guérar. Alors juste pour que chacun d'entre nous soit au clair, Guérar, ce n'est pas l'Égypte, mais ce n'est pas loin de l'Égypte. Guérar, c'est à la frontière. C'est-à-dire, c'est le lieu où on subit l'influence venant de l'autre côté de la frontière. Ce n'est pas mettre les pieds dans le monde, mais c'est être assez loin de Dieu pour nous retrouver très près du monde. Et peut-être nous pourrions nous poser la question, mais alors, pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé de rester là? Je disais cette semaine dans un autre service que Dieu parfois, eh bien, nous donne des ordres qui correspondent à l'état de notre cœur. Par exemple, quand Israël a demandé un roi, alors que le roi, c'était Dieu lui-même, Dieu a cédé et il a dit à son prophète, « Eh bien, ils veulent un roi, donne-leur un roi. » Et ils ont eu Saül, mais ils s'en sont mordus les doigts, n'est-ce pas? Parce que Saül n'était pas dans les plans de Dieu. Donc vous voyez, Dieu peut céder pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes et découvrir que lorsqu'on ne vit pas en relation étroite avec lui, en méprisant sa parole, eh bien nous devons en subir les conséquences. Et à Guérar, Isaac a subi les conséquences. Là aussi, il a manifesté les mêmes erreurs que son papa. Et quand on lui a posé des questions au sujet de sa femme, il a répondu exactement de la même manière. Et il a fallu que ce soit le roi de Guérar, païen, qui, averti par Dieu, lui donne une leçon et lui dise « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ?» Vous ne trouvez pas que c'est triste, mes frères et sœurs, quand les païens doivent nous reprocher notre conduite, notre manière d'agir, notre manque d'amour, notre manque de fidélité, notre incrédulité? Ne croyez-vous pas que c'est triste? Et Isaac a compris la leçon. Et lui aussi, il a fait un certain cheminement qui l'a conduit alors jusqu'à un puits formidable, un puits où l'eau coulait en abondance. Dieu l'a mis au large. Et il a été désaltéré, et c'est eau-là qu'il a découvert, après avoir enlevé la poussière que les Philistins avaient mis dans les puits creusés par son père Abraham, il a pu retrouver la plénitude de la vie de l'Esprit. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés les uns et les autres. Il faut que nous nous mettions à l'œuvre pour enlever tout ce qui vient du malin, toutes les convoitises de notre vie, toutes les choses qui sont en train de boucher, de paralyser notre vie spirituelle, à un point même que nous nous sommes habitués à certaines choses et qui sont en horreur aux yeux de l'Éternel. Et nous avons besoin de retrouver la fraîcheur et la liberté du Saint-Esprit. Isaac l'a retrouvé. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours aussi grand. Dieu est toujours aussi puissant. Permettez-moi d'ajouter alors encore une fois un autre exemple. Eh bien, le voici. La famine les conduit, les enfants d'Israël, dans une drôle de situation. Et maintenant, il crie vers le prophète. Le prophète a donné une promesse, ou plutôt exactement, il a donné un moyen simple par lequel tout le monde pouvait être rassasié. Et regardez comme sa parole est simple. Il dit à son serviteur, mais écoutez les moindres détails, « Mets la grande marmite, je vous cite ici le verset selon la traduction Semeur, « Mets la grande marmite sur le feu. » Nous ne l'avons pas ici à Louis II. Et il dit « Et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Je remarque avec vous, il n'a pas dit « Sortez !» pour chercher ce dont vous avez besoin pour faire le potage. Il y avait tout ce qu'il fallait là, dans ce lieu, à Gilgal. Il a été clair dans le message qu'il a donné et le travail qu'il a confié à son serviteur. Mets la marmite sur le feu et fais cuire le potage. Peut-être que les fils des prophètes ont commencer à se dire, mais est-ce qu'il y a suffisamment de légumes pour que tout le monde puisse être alimenté? Et la Bible me dit, l'un d'eux, non pas le serviteur à qui le prophète s'était adressé, mais l'un d'eux sortit dans les champs. Je m'arrête ici un instant. Parce que ça, c'est tellement important à mes yeux. Le prophète ne lui avait pas demandé de sortir. Le prophète lui avait demandé de demeurer là et de faire seulement ce qu'il lui avait commandé. Mais, chers frères et sœurs, comment ici ne pas nous souvenir de ce qui est écrit dans la parole de Dieu ? Notre lieu à chacun d'entre nous, c'est d'être caché en Jésus-Christ. En dehors de lui, il y a toutes sortes de dangers et toutes sortes de problèmes peuvent devenir notre partage. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, écoutons ce que Jésus nous a ordonné lui-même. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, vous savez comment il s'adresse à ses disciples. Et il dit, « Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. » Mais Jean, eh bien, a écrit aussi une épître, et notamment la première épître de Jean, au chapitre 2, et dans ce chapitre 2 de la première épître de Jean, déjà ça commence au verset 6, il est dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Au verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. » Et aucune occasion de chute n'est en lui. Jésus, au préalable, avait dit, « Je suis la lumière. » Au verset 14, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » Un peu plus loin encore, au verset 19, il parle de certains qui n'ont pas su garder la parole de Dieu dans leur cœur et qui peut-être ont été attirés par certaines choses qui n'étaient qu'une imitation de la vie de Dieu. Et il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Au verset 24, « Que ceux que vous avez entendus dès le commencement demeurent en vous. » Pour vous, verset 27, L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Avez-vous remarqué, mes frères et sœurs? Il y a un lieu duquel nous ne pouvons pas nous séparer, duquel nous ne pouvons pas sortir. Celui qui l'a fait, eh bien, il l'a fait à ses risques et périls, et il a mis en danger toute cette communauté parce qu'il a fait entrer le poison dans ce lieu où se trouvaient rassemblés tous les fils de prophètes et le prophète lui-même. Comment est-ce que cet homme a-t-il manqué de discernement à un tel point? Mais finalement, nous pouvons très bien considérer que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. L'histoire éternellement se recommence quand nous ne sommes pas attentifs à l'enseignement que Dieu nous donne et à la parole qu'il nous a laissée. Il est sorti pour quoi faire? Il arrive dans quel endroit? Eh bien, dans une vigne sauvage. L'expression ou le terme « sauvage » veut dire quelque chose qui n'est pas cultivé. Or, quelque chose qui n'est pas cultivé, c'est quoi? Bien, c'est notre chair. Malgré nos efforts personnels pour changer ce que nous sommes, nous n'y arriverons jamais. Nous ne pouvons pas. Il n'y en a qu'un seul qui a le pouvoir de créer des choses nouvelles. Et nous devons marcher, et nous pouvons marcher, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. La chair produit des fruits qui sont de véritables poisons. La haine, l'amertume, l'impudicité, l'orgueil, toutes ces choses-là qui proviennent de la chair et que l'on met dans la grande marmite, eh bien, empoisonne le peuple de Dieu. Par contre, eh bien, il y a en effet une vigne que nous devons cultiver. Rappelez-vous de la parole de notre cher Sauveur. Mon Père est le vigneron. Moi, je suis le vrai cep. Tout sarment qui demeure en moi, eh bien, le Père va l'émonder, même s'il porte du fruit, mais pour qu'il porte encore plus de fruits. Et le fruit qui est indispensable dans une église, c'est quoi? Est-ce que c'est la manifestation de notre orgueil, la manifestation de l'amertume que nous pouvons garder dans notre cœur, la manifestation même parfois d'une certaine haine? Est-ce que c'est la manifestation de cette chose qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous fait croire que finalement nous sommes meilleurs que les autres? Mes chers frères et sœurs, je tremble en vous parlant ce matin parce que je sais que j'ai besoin constamment de la grâce de Dieu et que si cette grâce n'agit pas dans ma vie et par la puissance du Saint-Esprit, je ne suis pas meilleur que les gens de ce monde. Ce qui me différencie des autres, c'est que Christ habite en moi. Et c'est ça que nous devons chercher vraiment de tout notre cœur, avec un enthousiasme réel, véritable, en laissant la parole de Dieu agir en nous. Ne sortons pas, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons remarqué dans certaines communautés? Non seulement il y a eu la vigne sauvage, non cultivée, mais il y a eu les coloquintes sauvages. Oui, parce que dans ce pays, il y a une sorte de fruit qui ressemble à une courgette. Et nous savons tous que la courgette, c'est un bon légume. Mais la coloquinte sauvage, ça, c'est un véritable poison. Et qu'est-ce qui arrive? Quand nous ne discernons pas ce que Dieu veut, alors nous arrivons à considérer que certaines choses qui sont pratiquées dans certaines églises, elles sont formidables, elles sont extraordinaires. Écoutez bien, Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas mon but ce matin de dénigrer qui que ce soit, mais quand même, mon cœur a été blessé il y a à peine 2 jours quand on m'a fait remarquer, voir certaines choses, un comportement au sein d'une église qui est tellement en opposition, en abomination aux yeux de l'Éternel, comme je me demande comment des chrétiens peuvent accepter cela, tolérer cela. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas possible de connaître le compromis. Ou on est avec lui, ou on est contre lui. Vous savez, il n'y a pas des voies intermédiaires. Quand on ne vit pas selon le conseil de Dieu et que l'on adopte des pratiques, des moyens par lesquels nous nous imaginons que nous allons pouvoir gagner le monde, nous nous trompons. Regardez comment Paul a parlé aux Corinthiens. Il dit, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution pour nos difficultés, la seule solution pour nos problèmes. Suivre le Seigneur dans cette humanité sainte qu'il a manifestée au milieu de nous. Mais avant d'aller plus loin, revenons ici à ce qui s'est passé. D'un seul coup, alors que tout venait d'être prêt et que l'on a voulu goûter à ce potage, préparé avec des choses qu'on ne connaissait pas. Vous savez, certaines personnes disent, eh bien, nous ne devons pas être contre les nouveautés. Je vous l'accorde, à condition que ces nouveautés-là ne soient pas l'opposé des choses anciennes qui sont mentionnées dans l'Écriture. Parce que j'ai remarqué dans la parole de Dieu qu'il est dit que nous devons retrouver les anciens sentiers. Les anciens sentiers, pourquoi ? Pour connaître ce que l'Église primitive a connu. Et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je me mettrai à douter de la impossibilité de la part de Dieu de nous faire connaître dans ces temps si difficiles, tellement cruels, la même bénédiction qu'il a permis pour ceux qui lui ont fait confiance dans le livre des Actes des Apôtres. Pour moi, voyez-vous, le livre des Actes des Apôtres n'est pas terminé. Il se poursuit parce que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle nous devons retrouver ce qui est essentiel pour notre vie. Mais eux ont constaté d'un seul coup, au moment où ils ont porté ce potage à leur bouche, la mort est dans la marmite, le poison était à l'œuvre. Et s'ils avaient continué, eh bien, ils auraient certainement tous succombé. Mais comme ils ont crié à Élisée, comme nous devons crier à notre Seigneur, eh bien, le Maître leur a donné la solution. Et il leur a dit, prenez de la farine et jetez cette farine dans la marmite. C'est quoi la farine? Vous savez, pour accompagner certains sacrifices dans l'Ancien Testament, on utilisait de la fleur de farine. La farine, c'est le résultat d'un travail qui a été opéré, réalisé. Le grain de blé a été broyé, il a été brisé. Mais le grain de blé s'est transformé en farine. Jésus lui-même, en parlant de sa propre personne, a dit « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Et quand je considère que Jésus, pour moi, a été broyé par les meules de la justice, de Dieu et de la sainteté de Dieu. C'est moi qui aurais dû être broyé de cette manière-là. Parce que lui était sans péché. Mais il nous montre un exemple pour que nous le suivions. N'a-t-il pas dit à ses disciples, Si vous voulez être mes disciples, il faut renoncer à vous-même, vous charger de votre croix et me suivre. Et voyez-vous, quand nous nous approchons de Dieu, nous ne pouvons pas le faire sans qu'il y ait un brisement qui n'est pas suscité par la volonté d'un homme, mais qui est suscité par l'action puissante du Saint-Esprit, qui fait quoi? Qui applique la parole de Dieu à notre cœur. Jésus broyé s'est transformé en quelque sorte, c'est tout à fait symbolique, en cette farine qui a saigné. Et quand il nous dit « Suivez-moi », nous pouvons être sûrs que ce chemin-là, il est formidable. Parce qu'il veut nous rendre semblables à lui-même. Je sais que lorsque nous considérons l'humanité parfaite de Jésus, nous nous sentons tellement loin, tellement loin. Nous sommes si petits. Et j'ai envie de m'écrier avec Paul quand il s'adressait à ses Corinthiens, mais qui est suffisant pour ces choses? Personne d'entre nous. C'est la raison pour laquelle lui qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant a répandu le Saint-Esprit sur son Église. Pour que par le moyen du Saint-Esprit, lui soit placé sur le trône de notre cœur. Quand nous pouvons arriver à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors là, il y a la guérison. Là, il y a la solution au problème. Là, il y a la délivrance. Parce que lui seul, doit être vu au travers de chacun d'entre nous. Je me pose la question, mais Seigneur, que voient les autres de ma vie? Qu'est-ce qu'ils remarquent dans ma vie? Est-ce qu'ils remarquent mes ressentiments? Est-ce qu'ils remarquent mon manque de pardon? Est-ce qu'ils remarquent mes réactions charnelles? Bien des fois, c'est cela qu'ils ont vu. Et c'est à cause de cela que je demande pardon à Dieu. Mais c'est aussi une raison pour laquelle je crie vers le Seigneur pour lui dire « Règne en moi, roi puissant, règne en moi !» L'Esprit de Dieu ne nous a pas été donné simplement pour que nous exercions, et je l'ai dit tant de fois, même en passant ici, quelques dons spirituels. Merci à Dieu pour les dons spirituels. Mais voyez-vous, les dons spirituels n'ont jamais été la preuve d'une spiritualité, quelle qu'elle soit. La preuve, on n'avait que regarder aux Corinthiens, chez lesquels il y avait tous les dons spirituels. Et malgré tout, l'orgueil, les querelles, les disputes, il y avait même certains qui traduisaient les autres en justice. Il y avait des choses abominables, une impudicité telle qu'on ne la retrouvait même pas chez les païens. Et ils étaient encore fiers d'eux, ils se glorifiaient à un point même que Paul a été obligé de leur dire « Mais de quoi vous enorgueillissez-vous » Et il les a ainsi enseignés pour qu'ils trouvent la voie qui est la voie de la bénédiction en venant à Christ par le Saint-Esprit. Régnant dans nos cœurs, il peut tout changer. La farine a été jetée, et puis ils ont mangé. Il est dit qu'il n'y avait plus rien de mauvais. Plus rien de mauvais. Vous savez, je suis conscient d'une chose, mes frères et sœurs. Personne ne peut m'aider. Aucun pasteur ne peut m'aider. Rien. Christ seul a le pouvoir d'accomplir le miracle. Des fois, nous nous confions dans la chair et nous sommes déçus parce que la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. » Déjà là, il y a eu un assainissement. Déjà là, il y avait une première étape vers une sorte de bénédiction et de délivrance remarquable. Mais Dieu n'avait pas fini. Il y avait encore une autre bénédiction. Nous avons lu au verset 42, un homme arriva de Baal Shalisha. Un homme dont on ne sait pas quelle est son origine. On ne sait pas, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas pourquoi d'un seul coup il apparaît et il amène avec lui du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Cet homme, il a une autre nourriture différente de celle qui a été préparée dans la marmite. Il vient avec des pains d'orge, le pain des pauvres, mais aussi un pain qui a une histoire. Car certainement, vous avez tous lu comment un jour, Gédéon lui-même s'est trouvé dans une lutte, un combat terrible. Il avait les Madianites en face et Dieu lui avait demandé de faire un tri. Vous savez, c'est Dieu qui le fait. Il lui a dit, tous là qui craignent, etc., tu les renvoies à la maison. Hop, ils sont partis, des milliers. Puis, comme si ce n'était pas encore suffisant, il dit, il faut encore faire un tri. Puis il lui a donné un signe par lequel il va reconnaître ce qui devait rester. 300 petits bonhommes. 300 personnes. En face, c'était des milliers. Et Dieu lui dit, va, avance. Et ça, c'est la chose extraordinaire de la part de Dieu. Il n'a pas besoin du nombre. Il n'a pas besoin de la force humaine. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais quand même, mettons-nous à la place de Gédéon et on peut comprendre. Il a quand même permis qu'il se rende compte de quelque chose. S'approchant, n'est-ce pas, du camp des Madianites, il y a un soldat qui a écouté. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Un Madianite était en train de raconter un songe qu'il avait eu dans la nuit. Et il a dit, tu sais, à son camarade, il lui disait, j'ai eu un songe étrange. J'ai vu un pain d'orge, un gâteau d'orge qui roulait dans le camp de Madian et il a renversé la tente de Madian. Et l'autre l'a arrêté, il lui a dit, ça, c'est rien d'autre que Gédéon qui va remporter la victoire. Et la panique a été dans le camp des Madianites. Mais Gédéon, lui, il n'avait qu'à s'attendre à Dieu. Et Dieu a accompli parfaitement ce que cet homme avait vu dans son songe. Je reviens quand même, pain d'orge, le pain des pauvres. C'est Jésus humilié, Jésus qui a quitté sa gloire pour venir au milieu de nous comme un simple homme. Est-ce que nous pouvons réaliser ce que cela pouvait représenter pour lui? Il habitait près de son Père, dans la gloire, dans la magnificence, et il vient humilié comme un simple homme. Petit, frêle, comme une faible plante, nous rappelle le prophète Ésaïe. Mais quel ravage il a fait dans le camp de l'ennemi. Parce que par la croix, il a livré en spectacle la puissance des ténèbres et il a triomphé pour nous. De telle sorte que maintenant, eh bien, il se présente à nous comme ses épis nouveaux. Alors ici, il faut que nous fassions un rapprochement. Qu'est-ce qui s'est passé après la traversée du Jourdain et lorsqu'il y a eu la Pâque pour la première fois dans le pays que Dieu donnait à ce peuple d'Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'ils ont pu goûter des épis nouveaux qui venait de ce pays de Canaan, qui avait été promis par Dieu lui-même. Ils ont goûté aux fruits nouveaux de ce pays. Et là, nous avons une image formidable. C'est le Christ vivant, ressuscité, qui se présente à nous et qui nous dit encore qu'il est notre nourriture. Cependant, il faut pouvoir s'alimenter de ça. Tu remarques que avec Josué, quand ils ont goûté à cette nourriture, Dieu a fait quelque chose. La manne qu'ils n'avaient jamais, jamais refusé de donner à ce peuple, malgré ses murmures, malgré ses agitations, malgré ses défaillances et malgré son incrédulité, Dieu n'est pas comme nous. Nous, parfois, nous disons « Ah, tu as fait cela, alors je te prive de ça. » Nous pouvons le faire même pour nos enfants. Mais Dieu ne le fait pas. Il a entendu les murmures, il a entendu les cris, il a entendu les pleurs, il a entendu les gémissements. Mais il a toujours donné la manne fidèlement. Mais ce jour-là, la manne a pris fin et ils ont trouvé une nourriture différente. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est le Christ ressuscité, vivant, ayant toute sa place dans nos cœurs et dans nos vies qui nous amène alors à une position qui honore et qui glorifie Dieu. Quand on est né de nouveau, quand on est entré dans ce territoire que nous appelons la vie éternelle, parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement ce que je vais connaître après ma mort, je suis entré dans la vie éternelle. Si je suis de nouveau, la vie éternelle est mon partage. Et la vie éternelle, eh bien, nous la trouvons décrite dans une épître qui est l'épître de Paul. Écoutez bien. Aux Colossiens, au chapitre 3, il dit ceci, je lis pour vous, soyez bien attentifs. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, marchez ou cherchez, pardon, les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand votre Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais il poursuit. Et il dit, si vous êtes cachés en Christ, en quelque sorte dans sa mort, et puis caché en Christ, dans la puissance de la vie de résurrection, car pour moi, la plénitude du Saint-Esprit, c'est de connaître la puissance de la vie de résurrection en moi, dans mon cœur. Et qu'est-ce qu'il dit ? Alors, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Si je ne le pouvais pas avant, maintenant, je le peux parce qu'il est vivant et qu'il règne à moi. Avant, par mes efforts personnels, je ne pouvais pas. Par ma propre volonté, je ne pouvais pas. Quand on me demandait de pardonner, je ne pouvais pas. Quand on me demandait de me débarrasser de ma haine, je ne pouvais pas. Quand on me demandait de me débarrasser de mes ressentiments et de mon amertume, je ne pouvais pas. Mais quand Christ règne, ça, c'est possible. Parce qu'il nous anéantit au niveau de ce que nous sommes, de notre moi, pour que lui prenne toute la place. Et que se passe-t-il? Alors, il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais s'il s'adresse à eux, prononçant ces choses, ça veut dire que tout en étant sauvés, ils ont besoin de mener un certain combat. Et il continue, « Mais maintenant, vous êtes sauvés, Christ est en vous, alors !» renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. C'est pas formidable ça, mes frères et sœurs? Je vous dis simplement, voilà la solution. Voilà où Dieu nous attend. Voilà où il veut nous voir. Et si chacun d'entre nous, pas seulement au travers d'un moment plus ou moins émotionnel, sentimental, où on entend la parole et sous son influence peut-être, on peut dire « Ah oui, c'est vrai, je vais faire cela ». Écoutez bien mes frères et sœurs, je vous en supplie, prenez cette parole dans votre cœur, méditez-la à la maison et demandez au Seigneur avec toute la force de votre âme, « Seigneur, accomplis cela en moi, prends toute la place en moi ». Et vous allez voir comment alors c'est facile de pardonner, de prendre la victoire sur les choses négatives de notre vie. Vous allez voir la joie que cela peut produire, la paix que cela peut produire et comment le diable, d'un seul coup, est obligé de reculer pour constater une fois de plus que tout ce qu'il a voulu faire s'est transformé en une arme contre lui-même. Celui qui est avec nous, mes frères et sœurs, est plus fort que celui qui est contre nous. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, s'il te plaît, merci parce que tu es vraiment ressuscité d'entre les morts, vivant. Et je te loue pour l'action de ton esprit dans ce monde et au sein de ton Église. Nous te supplions, viens-nous en aide, Seigneur, afin que la chair soit maintenue à sa place, là où tu l'as placée à la croix, et que nous, nous puissions voir se développer en nous cette vie nouvelle. Seigneur, nous sommes pleins de confiance, parce que ta parole dit que tu es un Dieu fidèle et que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu la rendras parfaite. À toi seul, je donne la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.